Bien, alors je vous propose que nous puissions continuer, plus confortablement installés, pour aborder une autre question. Après ce retour sur le passé, ô combien important dans la vie de Philippe Lannick, qui était sa venue en France, se poser la question maintenant de Philippe Lannick moderne, point d'interrogation, avec Thomas Casals, donc, qui a fait le documentaire Addictalie, diffusé il y a quelques années. Le jour où j'ai vu ce documentaire pour sa première diffusion, j'ai compris que j'étais pas seul. Voilà, allez lire du film Cadic en limousin. Et voilà, donc quelqu'un qui a eu donc une date très très importante dans l'histoire de la propagation du film Cadic, notamment par le travail documentaire que ça offrait. Ariel, qui a écrit récemment ABCDIC, avec cette formule magnifique, nous vivons dans les mots d'un écrivain de science-fiction. Formule que je pense qu'il va avoir du succès et qu'on risque de retrouver dans des articles sans te citer. Où tu explores le vocabulaire dickien à l'aune de notre modernité. Et enfin, notre rockstar, Jacob Thielman, qui n'a pas encore commis de texte, d'études sur Philippe Cadic.
Non.
Mais Dieu sait qu'à mauvais genre, tu ne peux pas t'empêcher d'en parler. Et d'en parler longtemps.
Donc,
donc au début, surtout pas. Mais avec l'originalité de ton regard. Donc justement, je voudrais faire un petit tour de table pour que vous puissiez donner votre vision, pour ouvrir les portes en très très grand, de pourquoi Philippe Cadic aujourd'hui.
C'est vrai que la question est vaste. Hein. Pourquoi Philippe Cadic aujourd'hui? Bon, moi je dirais que Philippe Cadic aujourd'hui c'est un antidote. C'est quelqu'un qui, à son époque, avec son côté un peu parano, a sans cesse exagéré ce qu'il vivait. A imaginé le pire. Je ne pense pas qu'il faut lire Philippe Cadic aujourd'hui pour se dire tiens, il a inventé le téléphone mobile. Parce que là, effectivement, non seulement ce serait totalement idiot, mais en plus on se planterait. Bon, il y a des petites inventions ici et là, des choses qu'on peut retrouver, mais c'est des anecdotes, des détails. Moi, je crois que la raison pour laquelle cet auteur est éminemment contemporain, c'est tout simplement parce que l'on parle des mondes virtuels, que l'on parle donc, de l'échapper, qu'on parle évidemment des notions d'humain et de réel, que l'on parle d'intelligence artificielle, que l'on parle de robotique, que l'on parle même d'ailleurs du rapport à Dieu, à la religion. Quels que soient les sujets, il a en quelque sorte déliré, anticipé, exagéré, sauf aujourd'hui, qui, d'une certaine manière, est notre présent, sera notre futur, comme il a été notre passé. Voilà. Hein? C'est-à-dire qu'il y a, évidemment que lui, sa réalité virtuelle à lui, il est plutôt de l'ordre des drogues, mais parfois, il n'y avait même aucun ordre. Il y a une nouvelle qui s'appelle « Le monde qu'elle voulait », je crois, hein, « Le monde qu'elle voulait », donc qui est l'une des nombreuses nouvelles qui fonctionnent sur le registre d'une autre réalité dans laquelle on vit, dans laquelle un personnage change la réalité de l'autre. Bon, à aucun moment il explique qu'il s'agit de nos réalités virtuelles, de nos échappées d'aujourd'hui, mais de fait, ça colle magnifiquement bien, quel que soit ce qu'il avait en tête comme mode, comme substance, comme qu'elle soit numérique, qu'elle soit chimique ou autre, la réalité même de cette échappée qui nous retombe sur le nez reste totalement pertinente. Et on pourrait prendre un nombre d'exemples, que ce soit dans les romans ou dans les nouvelles, de l'œil dans le ciel en passant par Ubik ou le dieu venu du centaure, où là il met réellement en scène un système de réalité virtuelle, tout comme il y en a un. Donc c'est vis-à-vis de Mars et il utilise des poupées pattes hein, dans le dieu venu du centaure. Donc c'est un système qui anticipe de manière presque hallucinante quand on le lit aujourd'hui, puisque ceux qui participent de ces mondes virtuels sont étendus dans leur clapier, Et il rentre dans l'univers donc de des poupées Barbie quoi hein, en fait hein, parce que c'est ça qui l'avait inspiré et ils vivent réellement cet univers là de manière totalement réelle, totalement de façon la plus voilà la plus virtuelle qu'on puisse imaginer, et dans un autre genre dans les moutons rêvetifs, donc les androïdes rêvetifs de moutons électriques hein, il y a en fait la fameuse comment ça s'appelle, le Burmercer, c'est des poignées de réalité virtuelle, donc j'ai oublié comment, le nom exact de cette...
Boîte à empathie.
Voilà, la boîte à empathie, exactement. Il y a la boîte à empathie, qui est là encore un système qui est dans lequel on se retrouve à vivre, effectivement, cette scène néo-biblique, dans lequel un acteur totalement nasbrock, totalement azimuté, joue le rôle du prophète, le célèbre prophète qu'on connaît tous, Billy Burmercer, bien évidemment, hein, parce que c'est un prophète qui a marqué l'époque et qui a marqué beaucoup de gens. Et là encore, on a un système, un des nombreux systèmes expérimentés dans l'imaginaire de Dick, correspondant de manière assez forte, assez hallucinante à de nombreux délires que l'on peut avoir aujourd'hui. Voilà, c'est, en tout cas, cette exagération, cet imaginaire a mis en scène une série de scénettes, une série de moments qui nous permettent de prendre la distance par rapport à l'aujourd'hui. Voilà moi ce que je pourrais dire sur la raison pour laquelle lire et relire Dick aujourd'hui est quelque chose de tout à fait nourrissant pour l'intellect et pour le reste.
Voilà. Tu vas pas te cacher maintenant.
Moi, ce que je pourrais dire sur Dick aujourd'hui, pour moi, à l'époque où j'ai fait le film, l'idée était de faire plus qu'un documentaire un peu classique, de faire un film qui serait un peu une œuvre collective. Donc j'ai demandé à beaucoup de gens de lire des textes, il y a beaucoup de lectures dans le texte, il y en a beaucoup moins au montage final, mais tout le monde a lu en fait des passages de Philip K. Dick, DJ Spooky, le musicien américain, m'a donné de la musique, on a eu pas mal d'images récupérées de droite, de gauche, et l'idée c'était de faire quelque chose de vraiment collectif. Et pour moi l'idée de la modernité de Dick aujourd'hui, c'est vraiment ce que disait Ariel, c'est qu'il a créé à travers son œuvre une grille de lecture de la réalité, qui curieusement est valable aujourd'hui et a été valable dans les années 60-70. Donc lire Dick, c'est quelque part s'éduquer, parce que pour moi c'est aussi un grand éducateur, comme le sont les grands écrivains finalement, comme l'ont pu être Victor Hugo, Balzac, voilà. Pour moi c'est quelqu'un qui permet d'avancer dans la vie et d'essayer de comprendre et de démêler certains films, à travers ces grilles de lecture qui est un peu comme l'équivalent serait aujourd'hui peut-être comme un système d'exploitation informatique quoi. C'est-à-dire que il y a Unix, il y a Linux, il y a Windows, il pourrait y avoir le système Ubik ou le système Dickien.
Voilà. Merci. Vous savez, dans l'islam chiite, Dieu des Simains, on considère qu'il y a deux cycles successifs, qu'il y a un cycle qui est le cycle des prophètes, qui s'ouvre avec Moïse et qui se clôt avec Mahomet, et ensuite un cycle des guides qui démarre après, à partir du premier imam et surtout à partir du 12e imam, l'imam caché. Ensuite, tout ce qui suit est une interprétation du domaine prophétique. Et ces deux temps, pour moi, cette espèce de système de cyclique où un premier temps est un temps prophétique où tout part vers l'avenir et ensuite on a un temps d'interprétation, peut fonctionner dans plein d'autres domaines. Et, par exemple, dans le domaine du rock, il y a une ère prophétique qui démarre avec les premiers rockers et qui a atteint son acmé avec les Beatles et les Stones. Et ensuite, une autre période qui domaine... une période interprétative où à ce moment-là, en plus, c'est redoublé par le fait qu'on fasse rentrer toutes les autres musiques à l'intérieur de la musique rock, comme dans le domaine de l'islam chiite des Simains. Alors toutes les autres révélations, la révélation qui peuvent être les révélations zoroastriennes, qui peuvent être également tout le domaine indien ou tout le domaine grec, va rentrer dans un travail d'exégèse et un travail de réalisation. Et c'est ce moment-là, le moment le plus important, c'est le moment où en fait l'homme lui-même réalise tout son potentiel divin. Je dirais que dans l'expérience de la modernité, en tout cas, si on considère que la modernité démarre, c'est très difficile de dater la modernité, mais enfin bon, il y a plein de manières différentes de l'envisager, mais bon, si c'est les deux, grosso modo, les deux, trois derniers siècles, quoi, pour simplifier vraiment énormément, il y a une période en tout cas où les principaux écrivains sont les poètes, et c'est le domaine prophétologique. Et donc, on va dire de Nerval jusqu'à Artaud, on a une période qui est prophétique et qui est toujours portée vers l'avenir, et ensuite, on arrive à un moment où en fait la question est de tout réussir à réintégrer, et non seulement tout ce qui a été écrit en termes poétiques. Je vous donne des exemples français, mais vous pouvez aussi évidemment les adapter à la poésie anglaise et à la poésie des autres pays. Et à ça rattacher toutes les autres révélations, toutes les autres dimensions pour réaliser le parcours d'un homme. Et Dick est un des principaux guides à ce niveau-là, dans le sens où de son expérience d'écrivain, romancier, il a réussi à tisser une toile qui traverse le temps, qui traverse les domaines du savoir, et en particulier les domaines du savoir sacré, de la science sacrée. On va retrouver dans toute la trilogie divine, d'abord dans le travail de l'exégèse, mais dans toute la trilogie divine, un nombre incroyable d'allusions aux néoplatoniciens, aux soufis, aux kabbalistes, et à tout l'ésotérisme chrétien également. On va réussir à faire, converger progressivement tous ces éléments-là à l'intérieur de l'expérience d'un homme, ou l'expérience d'une femme, et en tout cas la création du personnage de Angel Archer dans Timothy Archer. Tout à l'heure, on voyait Angels Never Die. Moi, je pense à cet entretien qu'il a donné, qui a été publié par les éditions de l'Éclat, où il dit qu'il a quand même réussi quelque chose dans sa vie, c'est créer Angel Archer, un personnage qui le dépasse, enfin. Quelqu'un qui soit absolument plus intelligent et plus accompli que lui.
Et, c'était Ursula Le Guin, qui lui avait reproché de toujours faire des personnages féminins médiocres et méprisables. Donc Ursula Le Guin lui avait reproché que tous ses personnages féminins étaient nuls, haïssables, castratrices, destructrices. Et voilà, sa réponse a été la création du personnage d'Angel, qui a été une période extrêmement heureuse pour lui, mais très avec un baby blues dès la fin du roman. Elle lui a manqué terriblement. Il est certain que ce dernier livre, mais c'est un dernier livre par accident, il était déjà en train de penser au son prochain quand il est mort, il a créé un personnage absolument sublime par sa complexité, et aussi par le fait que c'est un personnage qui va douter jusqu'au bout, et que c'est un personnage qui contredit finalement la légende de Philip K. Dick, l'illuminé, le fou, qui a quand même vu Dieu. Et voilà. Je t'interromps.
Non, mais de toute façon, c'est des amorces, hein, puisque de toute façon, on va parler tous ensemble de pourquoi Dick aujourd'hui. Enfin, voilà. Par exemple, un musicien aujourd'hui comme Trace Bryant de Secret Chief 3 fonctionne également aussi sur ce mode-là, c'est-à-dire que à l'ensemble de toute la musique moderne, rock, heavy metal, death metal, il va réussir à intégrer tout le folklore afghan, toute la musique type Ennio Morricone, western, et également avec à côté va se dérouler dans le travail de Trace Bryant toute cette bibliographie qui va renvoyer à une culture mondiale. En fait, ce qui peut se dire, c'est que jusqu'à présent, tout ce qu'on a considéré comme étant la civilisation était une espèce de concept super occidental, et donc parlant de culture, c'est la philosophie et la littérature des blancs, quoi. Et puis à partir d'un moment, on découvre vraiment le reste du continent, et le reste du continent, ça c'est très difficile à intégrer comme une totalité, comme une culture globale. Et Dick fait partie de ceux qui sont parmi ceux qui ont réussi à commencer à construire l'homme de cette culture-là, quoi. Voilà.
Donc, on parle d'un auteur qui a fait 44 romans, près de 200 nouvelles. On en est maintenant à 5 biographies écrites, 4 documentaires tournés. Il est publié aux États-Unis dans l'équivalent de la Pléiade, en 3 volumes. 12 films qui adaptent son œuvre du sublime au plus infâme. Pour être gentil. Oui, je suis allé voir Total Recall. Et donc, cette question peut se résumer sur un seul exemple. Ubik est maintenant disponible en France, chez 10-18, donc dans une collection généraliste, avec une couverture qui n'est pas du tout, qui ne reprend aucun des codes des collections de science-fiction, ce qui fait qu'un lecteur curieux peut très bien acheter Ubik, sans connaître, sans vouloir, et c'est par coïncidence presque. Et c'est ça qui me questionne, c'est comment est-ce que cet auteur extrêmement américain dans sa culture, parce qu'il est le produit de toute une évolution de l'âge d'or de la science-fiction, finit par se retrouver dans une collection blanche, si j'ose dire, en France. Donc un parcours qui est totalement atypique et que je trouve mystérieux.
Non, parce que c'est pas de... Parce que Philippe Cadix, pour moi, il n'a pas écrit de la science-fiction. Il a écrit un genre, d'ailleurs un genre littéraire qu'on appelle, enfin même plus qu'un genre littéraire, on dit une situation dickienne, on dit un roman dickien, on dit un film dickien, donc il a créé ça, et son univers dépasse, il y a très peu de technologie dans les romans dick, il y a très peu d'histoire de planète, donc il est avant tout ancré dans la réalité, quoi. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on retrouve dans la Pléiade américaine, il y a beaucoup de traductions en France, parce qu'il a dépassé, il était au-delà de ça. Et les réactions de la conférence de Metz aussi ont été violentes, et parce qu'on s'attendait effectivement, qu'on l'a vu tout à l'heure, à tout autre chose, quoi. Donc voilà, il est reconnu aussi pour ça, pour avoir créé une vraie littérature à part entière. Et d'ailleurs, on parle du Bic, mais... on découvre les livres de Dick, il avait un sens, alors les traductions françaises sont parfois bonnes, parfois mauvaises, mais il a des titres absolument géniaux. Quand vous tombez sur un bouquin dans une bibliothèque où il y a 300 livres, vous voyez un bouquin qui s'appelle « Le temps des articulés », moi je le prends, ça me donne envie de le lire, quoi. Je me dis « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ubik, c'est pareil. Bon, Ubik, on se demande « Siva », c'est la même chose. « Couler mes larmes », dit le policier... c'était vraiment le roi du pitch dans les titres aussi. Donc il a attiré beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément des lecteurs de science-fiction, rien qu'avec ça, quoi, rien qu'avec ce simple gimmick du titre, quoi.
Il y a un autre titre que j'aime beaucoup, qui est en tout cas dans la version française, qui est En attendant l'année dernière. Ouais. Voilà. Donc, et qui a l'air d'autant plus fin comme titre, En attendant l'année dernière, qu'aujourd'hui, les logiques de contrôle, telles qu'elles s'expriment, parce qu'effectivement, la logique du contrôle, on n'a pas parlé, est très présente dans tous les romans de Dick, du début à la fin, hein, ses premières nouvelles jusqu'à ses derniers textes. Bon. Et donc, j'ai perdu mon fil, mais c'est très difficile de perdre son fil.
La logique du contrôle.
Oui, tout à fait. Oui. Mais j'avais un fil à tirer sur la logique du contrôle, mais il a disparu. Donc, tu me demandais, oui, pourquoi est-ce que c'est alors ? Pourquoi est-ce qu'on en est donc
à ce qu'il soit publié dans la Blanche, dans la Pléiade ?
Moi, je pense pas que ce soit. C'est pas un grand styliste, hein, Philippe Cadix. Il n'est pas connu pour ça, en fait. Hein. Donc, en fait, c'est pas la bonne raison. Ensuite. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la science-fiction. Bon, hein, et donc, je suis plutôt. Pour moi, la science-fiction n'existe pas. La science-fiction, c'est quoi ? C'est une dite qu'on fait sauter. Hein, c'est que c'est la dite de il faut être soi-disant réaliste. Voilà, c'est cette dite-là. Il faut respecter les codes du monde tel qu'il nous est donné, ou tel qu'on croit qu'il nous est donné, en fait. Hein. Justement, qu'est-ce qu'il y a de plus fictionnel que des gens qui disent d'écrire la réalité ? Qu'est-ce qu'il y a de plus fictionnel, de plus destructeur de réalité que la télévision, que les reportages, qu'est-ce qu'il y a de plus faux finalement que ce qu'on va nous transmettre sous le registre du vrai. Bon. Et Baudrillard avait une belle expression, il disait, en fait l'enjeu, et lui qui adorait Philippe Kadik et Ballard, c'était ces deux auteurs fétiches avant le monde de la science-fiction, donc J.G. Ballard et Dick, il disait en fait un truc que moi j'aimais beaucoup, il disait, au fond finalement l'enjeu il est de réinventer le réel comme fiction. Donc lui expliquait effectivement que le réel avait disparu, que on était dans la situation du simulacre, hein, post, c'est même plus que tout était faux, c'est qu'on avait, on n'avait même plus la clé de ce qui pourrait être quelque chose de l'ordre du vrai, il fallait donc aller complètement au-delà, hein, c'est peut-être le juste qui importe, et sous ce registre-là, réinventer le réel comme fiction, c'est admettre que le réel n'existe pas en tant que tel, qu'il ne nous est pas donné, qu'il est lui aussi créé, mais qu'il est quelque part de l'ordre d'un horizon qui est intéressant d'approcher, et qu'il est peut-être plus facile, plus intéressant d'approcher par la fiction, par l'imaginaire, de retrouver ce réel plutôt que par une soi-disant vision réaliste de Simili Christine Angot ou autre.
Tu appelles ça réaliste ?
Oui, non, mais elle se veut. Voilà, mais justement, et là, je crois qu'il y a une clé, qui, en tout cas moi, qui m'a toujours fasciné, c'est qu'au fond, y compris d'ailleurs des livres de John Brunner, d'autres auteurs de science-fiction, sont des livres qui nous parlent de leur aujourd'hui ou de notre aujourd'hui, quelque part. Parce que cette digue qu'ils ont fait sauter permet, de manière générale, c'est ça la science-fiction, le meilleur comme le pire, permet d'avoir des livres, des bons et des mauvais polars, des bons et des mauvais livres de philosophie, des bons et des mauvais livres de divertissement, permet d'avoir tout et son contraire, mais en tout cas permet d'avoir ce tout, hein, ce tout qui fait que ça nous parle de la même façon que d'autres livres de science-fiction, voilà, sont oubliés à juste titre.
Et encore un point sur la question de savoir pourquoi Dick aujourd'hui dans des collections type classique. C'est parce que la littérature classique, en fait, à la base, est nulle. Et donc, elle est obligée de se nourrir de la bonne littérature, qui est la littérature pas classique. Donc, et depuis très longtemps, c'est-à-dire que si on voit un peu comment les mecs des Lumières considéraient la littérature, qui faisaient la littérature vraiment super merdique, à part Rousseau, mais qui était hors jeu, quoi, et Sade, mais qui était hors jeu, un type comme Voltaire trouvait Shakespeare ou Rabelais particulièrement déplaisant, quoi. C'était vulgaire pour eux, c'était des trucs pour le peuple, quoi. Et donc, et puis, passe encore un siècle, et puis, bon, bah, en fait, c'était ça, la littérature classique. D'accord, ok. Et aujourd'hui, c'est quoi ? C'est toujours cette même merde classique, et la bonne, il faut toujours la chercher ailleurs. Et c'est un peu pareil, dans toutes les formes type artistique, les bons viennent toujours de l'extérieur. C'est les types du dehors qu'on n'attend pas, quoi. Et donc, c'est des viviers. Et pour pouvoir exister comme vivier, on est obligé de créer des genres. Et donc, c'est pour ça qu'on crée des genres comme le fantastique, le policier, la science-fiction, pour abriter le grand art de la narration, qui est la narration d'imagination. Et cette littérature dite d'imagination, du reste, c'est vrai, au bout d'un moment, devient ou finit par se donner comme littérature absolument réaliste. Elle peut pas être perçue comme telle pendant un moment. Il faut attendre un petit moment, une forme d'acclimatation à cet imaginaire, pour qu'il apparaisse totalement comme ce qu'il est, quoi, à savoir une version un peu plus claire de la réalité. Et ce qu'il y a de mystérieux avec Dick, c'est qu'au départ, il voulait écrire de la littérature classique. Et ça, c'est aussi « how wrong you can be », quoi. Un type comme Zappa voulait faire de la musique classique. Un type comme Dick voulait faire de la littérature classique. Il se trouve que, heureusement que le dieu mauvais de ce monde raté, finalement, n'a pas accordé leur souhait. Parce que sinon, Dick aurait écrit, s'il avait pu faire ce qu'il voulait, des romans de type flaubertien et Zappa de la musique contemporaine comme Varèse. J'adore Varèse, j'adore Flaubert. Par contre, là, c'est très bon, mais on peut imaginer que le décalque de ce type d'œuvre est juste pourri, quoi. C'est tout de suite pompier quand on imagine la reproduction de cet idéal. Et donc, il se retrouve projeté, comme dit, en tout cas, se retrouve projeté dans un genre qu'à la différence de la littérature dite classique, il peut exploser, explorer, et dans lequel donner le meilleur de lui-même et le meilleur du dit genre, et produire la véritable littérature d'imagination de son époque. Et comme on est toujours un peu en retard, Dick est encore vraiment notre époque, mais c'est parce qu'on ne connaît peut-être pas encore le grand guide, les grands guides de notre temps. Voilà.
Justement, c'est quand on pense, je vais rester dans le cinéma, quand on pense la façon dont le cinéma a pu piller l'œuvre de Dick, soit par des films un peu plagiaires, je pense à Truman Show par exemple, ou alors simplement l'adaptation de grandes idées. On pourrait penser plutôt à la trilogie Matrix, qui essaye de faire du Dick. Quand on pense à la télévision, donc Lost, tu as écrit là-dessus, qui cite explicitement Dick en montrant la couverture d'un
Siva.
Voilà, Siva à l'écran. Voilà. Pour vous, est-ce que vous auriez des pistes à communiquer?
C'est quoi, sur les films
sur de grands dickiens actuels. Donner des conseils de lecture, de visionnage.
Oh, les gens sont grands. Non, mais c'est pas ça, par contre, on peut parler de cette question.
Juste un truc, moi, pour moi, comme ça, un avis très simple. Le film le plus réussi et le plus dickien, pour moi, c'est Waking Life de Richard Linklater. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais c'est. On est vraiment, et même dans la fabrication du film, et dans ce qu'on voit sur l'écran, on est vraiment dans ce mélange entre réalité et fiction, concrètement, et ça fonctionne très très bien. Et on a des vrais personnages dickiens qui disent des vraies choses dickiennes, et on est complètement. Là, on est vraiment dans une adaptation très très fidèle. Alors après, le reste. C'est un peu subjectif. L'agent, c'est pas si mal que ça. Voilà, mais il y a des petites choses qui sont intéressantes. Après, c'est simplifié à l'extrême parce que c'est Hollywood.
C'est vrai que.
Évidemment, tout à l'écho.
C'est vrai que pour moi, l'agent, c'est plutôt un navet, mais bon.
Oui,
parce qu'en fait, le syndrome d'Hollywood, c'est de ce que dit dans ses nouvelles, notamment, à chaque fois, avait des idées hallucinantes, en fait. Hein. Des idées, des trucs genre. On ne sait pas comment il les a eues. Hollywood a l'art de prendre l'idée et lui enlever sa substance. Bon, et c'est ce qu'il faut. Très, très bien, Hollywood, sur l'agence qui fonctionne sur une belle idée de ce monde parallèle qui est finalement le monde des dieux, hein, dans la nouvelle à l'origine donc, de l'agence, hein, dont j'ai oublié le reconstruction, je crois un truc comme ça s'appelle en fait, hein, la reconstitution. Reconstruction, un truc comme ça. Donc la nouvelle d'origine, en fait, est une nouvelle en fait, où tout s'arrête, et effectivement, on voit à l'œuvre, c'est l'une des multiples tentatives d'expérimentation du divin de Dick, et on ne retrouve évidemment absolument pas ça de manière assez grotesque dans l'agence, avec une simili-histoire d'amour, évidemment finit bien. Donc voilà, bon, ça c'est. Non, après, justement, ce que disait Paco Méjus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait que Dick n'ait pas pu faire de la littérature classique et donc du Flaubert, c'est ce qui lui a permis peut-être de créer quelque chose de singulier. Et on ne touche à l'universel que si on est singulier, quelque part. Ça veut dire que des gens qui voudraient être Dick aujourd'hui ne pourraient forcément pas y arriver, ou alors, s'ils y arrivent, c'est presque par mégarde. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc moi, parmi les films, alors après, les films ou autres, moi, il y en a un que j'ai toujours trouvé, que j'adore, j'ai trouvé très prédicien, c'est Fight Club, voilà, de Fincher. Voilà. Je trouve que Fight Club a une dimension totalement folle dingue, de retournement permanent, et fait partie de ce type de film qui peut être vu trois fois de manière différente. Et c'est ce qui fait, à mon sens, la qualité de beaucoup des textes de Dick. C'est que selon le moment où on va le lire et selon qui va le lire, on va lire autre chose. Et je ne sais pas si vous êtes exercé à lire trois fois Lubick ou trois fois Le Maître du Château dans votre vie, mais moi, il se trouve que je me suis adonné à cet exercice et qu'à chaque fois, j'ai lu un roman différent. Voilà. Parce que justement, Dick lui-même ne savait pas quelle serait la fin et ça ne se termine jamais d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de circuit. On est dans une logique beaucoup plus circulaire que linéaire, quelque part, où tout se répond, et dans l'œuvre de Dick, et dans un seul et même texte, qu'il soit une nouvelle, ou un roman, ou entre des nouvelles et des romans, quelque part. Bon, et c'est ça, donc à mon sens, je dirais qu'il y a le Eternal Sunshine de Gondry aussi, que je trouve est un très joli petit film dickien. Il y a des gens qui ont un esprit comme ça, hein, et Scanner Darkly aussi, voilà, donc il y a quelques films.
L'échelle de Jacob.
Voilà, il y a quelques films, effectivement, où on retrouve cet esprit-là. Je ne suis pas sûr pas que ça ait été cherché et voulu de la part des gens qui ont conçu, qui ont mis en scène le scénario ou autre. En tout cas, peut-être, je pense que des gens comme Fincher, des gens comme Scanner Darkly, je ne sais pas quel est le...
l'auteur, voilà, exactement, ouais. Ou Gondry sont des gens qui ont lu Dick. Ça, c'est clair et net, ils le disent eux-mêmes, mais ils ne pensaient pas forcément à Dick lorsqu'ils l'ont fait. C'est-à-dire que c'est peut-être réussi parce qu'ils l'ont suffisamment digéré pour ne pas penser à lui lorsqu'ils ont fait leur film.
Il y a aussi, bon, moi je suis très très fan, Joss Whedon a une dimension bouquienne.
Dollhouse, vous connaissez Dollhouse,
bien sûr, mais aussi quelques figures de méchants dans Buffy ou dans Angel ont une dimension bouquienne dans leur dimension comique et cool. Et où, par exemple, les méchants de Buffy comme le maire Richard Wilkins III ou un méchant de Angel comme Yasmin, qui est une déesse du bien, mais qui ont en même temps un truc totalement destructeur. Et leur, leur dimension humaine un peu, comment dire, prosaïque, leur dimension prosaïque de tous ces, tous ces démons, tous ces big bad, et également les capacités à ces mondes de se retourner et de se retourner encore à nouveau. Évidemment, le dessinateur de bande dessinée Alan Moore. Enfin bon, à partir du moment où on a des très très grands auteurs d'imagination d'aujourd'hui, on va leur trouver une qualité bouquienne. Parce qu'ils se retrouvent finalement dans une période commune du monde des, de l'âme, quoi, du monde des images, une période contemporaine du monde des images. Et Lost n'est pas spécifiquement dickienne, même s'ils sont probablement des gros fans de Dick et tout ça. Simplement, on va retrouver une façon de, d'observer le monde qui va sans cesse se complexifier, se densifier et après finir par atteindre la qualité d'un joyau, d'un diamant avec mille et une facettes. Et la difficulté, en fait, le problème des adaptations, c'est que les seules bonnes adaptations sont de complètes trahisons. Donc les adaptations de Dick seront forcément décevantes si on y cherche Philip K. Dick. Et les grands adapteurs sont des grands salauds, quoi. C'est Kubrick qui met en place ces adaptations comme des combats où il veut tuer l'auteur du livre qu'il adapte. Ça, c'est les seules, et c'est les seules adaptations où à un moment une création peut avoir lieu. Donc c'est vrai que je m'attarde pas trop sur les adaptations de Dick au cinéma ou les films type Dickien, mais on va retrouver il y a une qualité de Dick qu'on retrouve pas, une mélancolie de Dick qu'on peut pas retrouver en tout cas. Et je sais pas si c'est une question de durée. C'était toi ou c'était Jean-Pierre Dionnet qui avait dit ça dans l'émission sur Dick, qui avait dit le problème des films dickiens, c'est que c'est Tom Cruise le personnage principal. Non mais oui, c'est impossible. Dit, ça, oui. C'est, c'est Dionnet qui avait dit ça. C'était toi. Voilà. Et c'était genre le héros de Dick, ça serait plutôt un type comme Jean Carmet, confronté à des mondes multiples. Ça peut pas être un playboy.
Oui, c'est ça, c'est effectivement, il y a une...
Et ça, c'est anti-hollywoodien.
Il y a une dimension, il y a cette dimension du magnifique qui vient des bas-fonds, voilà. En fait. Hein, voilà, c'est du rubbish, c'est du junk, en fait. Hein, ouais. C'est de la junk culture. Mais c'est de la junk culture, c'est du bas-fond. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a une lumière qui sort de ce bas-fond, en fait. Si on part du principe qu'on met tout de suite la lumière et on éclaire, on va jamais rien trouver. Voilà, on va parce que ça c'est vrai que Matrix, bon, est-ce que c'est dickien ou pas, je suis même pas sûr parce que c'est ça part de la logique du vrai et du faux effectivement, c'est presque plus baudrillardien d'une certaine manière. Bon, et après ça dérive en une sorte de film de divertissement. Bon, je veux dire le je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut toucher que par hasard en fait et sans l'avoir cherché. Voilà.
Les films des années 70 de Jacques Rivette en France sont plus dickiens et plus pinchoniens que toute la production qui se veut dickienne ou pinchonienne. Mais elle est par coïncidence des mondes imaginaires, en fait.
Je crois que c'est un super mot de la fin. Mais tout d'abord, je voudrais, est-ce que vous avez des questions, des idées ou des ajouts que vous aviez...
Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit justement sur le fait que Tom Cruise en héros d'une adaptation de Dick, c'est juste pas possible. Ça me fait penser à cette phrase de Blade Runner où la première fois qu'on voit Harrison Ford arriver et on lui dit on vous a choisi parce que vous êtes le meilleur, alors que dans le roman, en fait, on lui dit on vous a choisi parce que le meilleur vient de se faire tuer.
Superbe.
D'autres remarques ou questions?
Moi.
Alors, de, Kaufman a travaillé longtemps sur la production. C'est lui qui devait faire le rôle
de
Descartes. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des réunions et demandait des changements dans le scénario, et que les changements dans le scénario augmentaient le budget du film. Donc quand ils ont commencé à se disputer un peu, ils l'ont laissé partir, et ils sont allés voir un acteur qui n'était pas connu du tout, Harrison Ford. Ils sont allés voir sur le tournage des Aventuriers de l'Arche Perdue. Donc, manque de bol, le film est sorti après, il est devenu une méga star, les gens sont allés voir Blade Runner, croyant voir un nouveau aventurier. Et voilà, ils se sont dit, bon bah, on le prend et on change simplement. Il voulait que Descartes porte un chapeau. Et ça, c'est quand ils l'ont vu sur le tournage des aventuriers, ils ont dit, bon, ben, finalement, Descartes, il aura que son imperméable et pas de chapeau. Mais oui, non, je vous rappelle, pour la nouvelle de Minority Report, le personnage a la cinquantaine, il est chauve, il est bedonnant et il est assez malheureux. Mmh. Nous, on a Tom Cruise. Mais quelque part...
C'est un rôle de composition.
C'est peut-être un de ses meilleurs films. Hein,
ouais. C'est pas le problème, en fait.
Juste une parenthèse, il y a un film qui a été fait, une adaptation de Philippe K. Dick, donc une adaptation de Radio Libre à Mut, qui a été faite avec un micro-budget, hein, si vous voulez, ça a été tourné avec le budget d'une seconde d'Avatar. Donc c'est une caméra, une banque d'acteurs qui tourne ça à l'arrache, avec Alanis Morissette qui fait le rôle de Sylvia. Et c'est, eux, ils ont tenté l'expérience de faire vraiment une adaptation presque littérale. Donc de restituer la complexité de Radio Libre Albemut. Et ça fait un petit film, parce que c'est un petit film, absolument bouleversant. Parce qu'il y a à la fois l'humour, il y a la tristesse, et tu parlais de la mélancolie, elle est présente. Donc il n'est pas sorti en salle, il devrait sortir après une courte diffusion aux États-Unis en DVD l'année prochaine. Vraiment à voir.
Excusez-moi, vous avez commencé à aborder tout à l'heure la table ronde, à part un film ou un reportage, le projet que vous n'êtes pas attendu, il vient ici aussi pour apprendre des choses. Je ne connais pas votre
projet, c'est quoi Bah, c'est un documentaire que j'ai réalisé il y a 5 ans qui a été diffusé sur Canal Jimmy à l'époque. Voilà, et qui peut que vous pouvez voir maintenant sur YouTube.
Ouais, c'est sur YouTube.
Addicted. Voilà, qui est un peu l'idée, c'était vraiment de retracer un peu en traversant un peu différents domaines, la littérature, la musique, le design, de voir un peu quelle influence avait pu avoir Philippe K. Dick sur Philippe Stark, David Cronenberg, des gens de Sun Q, enfin voilà. Donc, vous pouvez le voir sur YouTube, on tape un peu.
On a oublié tout à l'heure, dans les adaptations, il y a un show, l'adaptation française ou suisse, avec Hippolyte Girardot,
oui, Confession d'un marin. Boringer est un bon héros, dit cette époque-là.
Après, il y a The Natureland aussi, qui est un film très peu connu, en fait, canadien, je crois, de mémoire, canadien, qui effectivement est un roman à partir d'une des premières nouvelles de Dick, très très époque science-fiction, mais qui a un assez beau travail, en fait. Hein.
Il y a le substance mort de Dick. The Natureland, ça c'est Peter Weller, donc l'acteur de Robocop, qui a accepté cette petite production parce qu'il voulait faire un film adapté de Philippe K. Dick. Il voulait entrer dans la tradition.
Oui, c'est un joli petit film, en fait, en tout cas par rapport à d'autres peut-être moins réussis, on va dire. Hein, parce qu'après, Next, ou L'Agence, ou Total Recall, voilà.
Oui, on arrête les groupes.
Enfin, le deuxième Total Recall, le premier, avec quelques moments pas intéressants. Voilà. Ouais.
Et encore, Total Recall, ils avaient commencé à le tourner avec Patrick Swayze.
Ouais.
Et la production a fait faillite. Alors que les décors étaient en construction et que voilà. Et c'est Schwarzenegger qui a tout racheté, il a embauché des Robin et il a laissé carte blanche.
Ouais.
Pourquoi?
Mais en tant que maire de LA, c'est une sorte de personnage d'Ikea. Hein.
Gouverneur de Californie.
Gouverneur de Californie. Schwarzenegger lui-même est un personnage d'Ikea. Le film l'est moins que lui.
Oui, lui est complètement. On a d'autres remarques, questions?
Je dis pour tous les fans de Kadi qui nous croisent quoi? Parce que justement, j'ai entendu dire que Gondry avait récupéré les droits pour pouvoir réaliser Ulrich.
Oui, le projet est officiellement en développement. Il est en train de tourner donc l'adaptation de Vian.
Les jours.
Et normalement, dès qu'il a fini, il enchaîne sur Ulrich. Le problème, c'est qu'aux dernières nouvelles, l'écriture du scénario n'est pas satisfaisante pour eux.
Parce que le scénario a déjà été écrit.
Dick a fait une version du scénario donc, qui est totalement infilmable, mais qui est fascinante à lire parce que c'est Dick qui revisite son propre roman. Le nombre de films qui ont été projetés autour de Dick, ça constitue tout un chapitre entier de l'histoire du cinéma invisible.
Ouais. Mais quand on voit le travail qu'il a fait justement sur Eternal Sunshine, on peut espérer quand même qu'il y ait des bonnes choses si jamais il reprenait.
Mais est-ce qu'il y a Charlie Kaufman sur le projet Ulrich? Parce qu'Eternal Sunshine, c'est quand même qu'il y a Charlie Kaufman, quoi. C'est le scénariste. Est-ce que c'est lui?
Non. Par contre, Charlie Kaufman a publié sur son site, là on parle entre nous, son scénario de Substance Mort.
Il a fait un scénario de Substance Mort. Ok.
Et tu vas voir son site. Et donc il l'a mis sur Internet. Ça c'est à lire.
Ouais, sur son site. Super.
Ce soir.
Et
tant que nous sommes dans les projets, donc Ridley Scott a parlé de faire Blade Runner 2. Si vous avez vu Prometheus, bon. Et Ridley Scott veut aussi travailler avec la BBC sur une mini-série de 5 ou 6 épisodes. Là, c'est intéressant, ça, ils auraient une durée suffisante pour faire une adaptation du Maître du Haut-Château. Donc, sous forme de mini-série prestige.
De série, je trouve ça bien.
Voilà.
Il y avait une série aussi qui s'appelait Total Recall 2070.
Oui.
J'essayais en fait de récupérer des idées d'Iken qu'il y avait dans les nouvelles.
Oui, c'est une série canadienne, ça a duré qu'une saison. Totalement fauchée, mais pas mal. Mais il y a des faut passer au-delà du budget accordé aux décors et aux acteurs. Bien, je crois qu'on peut tous vous remercier. Et nous allons.
Merci à vous. Merci.
Merci à toi.